I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattable. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande, des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans X. Le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment faire confiance quand la figure auprès de laquelle on s'est construite nous a trahis ? Peut-on s'abandonner à l'amour quand le socle familial a tremblé à ce point ? Marlène a su trouver les ressources pour dépasser la peur et surtout, elle a fait la rencontre extraordinaire.
On est en été 2002, j'ai bientôt 18 ans et je viens de passer 2 mois super, 2 mois d'été en colonie de vacances. J'étais animatrice en colo et donc c'est bientôt la rentrée des classes. Cette année, c'est important, c'est ma terminale. Et à la sortie du car, je vois au loin ma mère et mes grands-parents qui m'attendent. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se passe. Donc je vais à leur rencontre et là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé au sein de ma famille. Ma mère m'apprend donc que mon père est à l'hôpital, qu'il a fait une crise cardiaque et qu'elle a des choses à me dire. Et elle m'annonce donc que mon père, suite à son infarctus, a révélé la vérité concernant sa vie et notre foyer. J'apprends que mon père mène une double vie depuis quelques années entre la France et le Maroc, qu'il a une femme, voire même plusieurs femmes en parallèle. Et là, tout mon monde s'effondre, c'est un véritable tsunami pour moi. En tant qu'enfant unique, je me sens démunie, je me sens faible. J'ai l'impression que c'est tout simplement irréel ce que je vis aux côtés de ma mère. Et j'ai l'impression qu'à partir de ce jour-là, une autre vie s'annonce et que je vais avoir un autre rôle à endosser, à savoir un rôle vraiment d'adulte pour accompagner ma mère dans cette nouvelle vie. Et donc, du haut de mes 18 ans, cette nouvelle me renforce d'une certaine manière parce que je sens que j'ai vraiment envie de protéger ma mère parce qu'elle perd son mari. Elle se rend compte que son mari avec qui elle est depuis 20 ans est une autre personne. Et moi-même, je remarque juste que mon père nous a menti. Et pour moi, tout ça, c'est juste un rêve, voire même un cauchemar. Et donc, ça me brise. Après son séjour à l'hôpital, mon père, bien sûr, revient à la maison. Parce qu'ils ne sont pas encore du tout divorcés. Ma mère, après avoir appris tous ces mensonges, elle se lance dans une démarche de divorce aux côtés d'un avocat. Mais mon père, lui, reste à la maison. Et c'est là que le cauchemar commence parce que mon père s'est mis à boire et a carrément pété un plomb à l'idée de nous avoir dit cette vérité. L'alcool et la violence aussi font partie de notre quotidien pendant plusieurs mois. Mon père boit au quotidien. Mon père se shoot de médicaments et il est violent. Il est violent avec ma mère, alors jamais avec moi, parce que peut-être que physiquement parlant, je suis plus forte que ma mère, plus grande, mais j'ai cette force à protéger ma mère, à la soutenir. Mais ce quotidien-là, il est vraiment particulier parce que je reconnais pas mon père. Pour moi, c'est un étranger. Je le vois sous ou parfois il disparaît de la maison ou on doit le récupérer le soir dans la rue, ivre mort, ou on doit le récupérer aussi dans des bars pour le ramener à la maison. Et parfois même, on sait pas ce qu'il devient le soir. On sait pas où il est, donc on sait qu'il dort la nuit, parfois dans des parkings, dans la rue. Ce quotidien a duré près de 6 mois, mais on tient de bon bout et il part au Maroc retrouver son histoire qu'il a laissée là-bas, sans savoir nous ce qui se passe réellement là-bas, parce que finalement on se rend compte aussi que mon père avec le temps est devenu mythomane, qui raconte sûrement des mensonges, mais on ne sait pas vraiment la vérité, on se protège aussi, on cherche pas trop à la connaître. Et donc mon père part au bout de 6 mois après que la vérité ait éclaté et on se retrouve avec ma mère toutes les deux. Mais je sens aussi qu'elle a ce besoin de se retrouver en tant que femme aussi. Mais moi, c'est mon année de terminale et c'est important pour moi d'avoir mon bac et aussi de montrer que je vais bien. On essaye de survivre toutes les deux à la maison ensemble et de se reconstruire. Les mois passent, ma mère refait sa vie avec quelqu'un de très bien. Et moi, de mon côté, j'ai mon bac, difficilement, mais je l'ai. Et j'ai quand même cette envie de vivre ma vie en tant que jeune fille. Pourquoi pas aussi de rencontrer des garçons, même si franchement, le cœur n'y est pas non plus. Mais j'ai 18-19 ans, je vois toutes mes copines qui sont en couple, qui ont des amourettes. Mais bon, moi, je me sens obligée de vouloir un petit copain, même si au fond de moi, j'en suis pas prête. Parce que tout simplement, l'histoire que j'ai avec mon père, elle est tellement dure, elle a été tellement destructrice qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance en aucun homme parce que je me dis au fond de moi que à quoi bon, finalement, si je rencontre quelqu'un, il va me quitter, il risque même de me tromper. À quoi bon de souffrir? J'en suis pas prête. Les années filent, j'ai cette envie de partir, de quitter ma maison. Donc je pars vivre quelques temps à Londres. Je pars faire également des saisons à l'étranger en tant qu'animatrice. Mais voilà, je suis encore étudiante, je fais des jobs d'été. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc j'ai la bougeotte. J'ai le cœur libre. J'ai pas encore été réellement amoureuse. J'ai eu quelques amourettes, mais vraiment rien de plus sérieux. Et je suis animatrice en 2006 en Tunisie, animatrice dans un club de vacances avec des enfants. Et je tombe malade, j'attrape une forme de méningite. Donc je suis rapatriée d'urgence. Et puis je me connecte sur un site dans lequel je m'étais inscrite, qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Miscara, qui est un peu le concept de Facebook, c'est-à-dire qu'on crée son profil avec plusieurs photos de soi, on se présente qui on est, son prénom, son âge, ce qu'on aime, nos hobbies, etc. Et puis le but, c'est de se faire des amis un peu sur cette plateforme-là, et plus si affinité. Et en me reconnectant, je vois sur cette page d'accueil une toute petite photo d'un jeune homme avec une sorte de casquette, je vois marqué Adrien. Donc je clique dessus, je tombe sur sa photo, je dis tiens, il est mignon. Je vois qu'il n'y a pas du tout de faute d'orthographe sur sa présentation, que je trouve sympathique, nature pâture, très simple. Et je dis, ah, c'est sympa. Puis je vois son statut. Je vois qu'il est également en convalescence, parce qu'on pouvait mettre un statut sur ce site. Moi, le mien était également en convalescence, parce que j'étais malade. J'étais en voie de guérison. Et donc, c'est moi qui fais le premier pas en disant, salut, je vois que tu es en convalescence. Qu'est-ce qui t'arrive? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Et voilà, le premier lien s'est passé comme ça. On est en octobre 2006 et j'ai fait mes premiers échanges épistolaires avec un certain Adrien. On s'échange quelques messages avec Adrien de manière assez fluide, bizarrement, comme si on se connaissait depuis quelques temps alors que finalement on est juste des inconnus. Mais je sais pas, il y a cette facilité à se dire qu'est-ce qu'il y a à perdre, il me connaît pas, j'ai jamais rencontré, je peux peut-être dire des choses à quelqu'un qui me semble bien, qui me semble quelqu'un de gentil et de foncièrement bon. Donc, je lui dis tout simplement ma situation, que je suis tombée malade, que je suis toujours étudiante, que je vis chez ma mère, que mes parents sont divorcés. Et puis lui aussi, en parallèle, raconte sa vie. Il me dit que sa maman, il a perdu sa maman il y a quelques mois à peine, qu'il vit donc chez son beau-père, qu'il a 2 ans de plus que moi et qu'il est en train de rentrer dans la vie active. Bref, ça se fait de manière naturelle, mais on prend notre temps. Au fil du temps, on s'échange nos numéros. Et puis, les semaines passent. On se parle par téléphone, par message, on se prend de plus en plus des nouvelles mutuellement. Et puis, vint la question, est-ce qu'on se rend compte ? Donc, on se fixe une date qui est assez précise parce que c'est le 16 novembre 2006. Un peu moins d'un mois après s'être parlé. Le 16 novembre, je me rappelle parce que c'est son premier jour où il s'est fait embaucher dans sa boîte. Et du coup... il avait cette pression-là en tant qu'employé de faire sa première journée dans sa nouvelle boîte et puis le soir de se rencontrer pour de vrai. Donc c'est une journée un peu spéciale pour nous deux. Il est 19h, il avait de finir sa première journée de travail et puis moi je le retrouve. Je me rappelle, je monte l'escalator et là je le vois au loin et puis je le reconnais. Il est grand, brun, chic parce qu'il est en costard et puis je reconnais tout de suite sa timidité parce que Adrien, je l'ai perçu tout de suite comme ça, comme quelqu'un de très réservé, très timide. On se fait la bise, on a le sourire tous les deux. On se décide d'aller marcher. J'ai comme cette boule au ventre de me dire « Oh là là, est-ce que on va avoir de la discussion ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je vais pas tomber sur un taré ?» J'ai un petit peu peur et en même temps, je trouve ça un peu irréel, un peu hors du temps. Et on marche au cœur de Paris on se retrouve à Opéra. On marche sur l'avenue de l'Opéra et puis on se choisit une pizzeria. On s'y installe et... C'est là que officiellement commence notre premier rendez-vous et puis je sens que je suis très timide, très réservée parce que je me demande déjà comment va se passer la fin de ce rendez-vous-là, savoir s'il va y avoir un premier bisou ou pas, sachant que moi je crois pas particulièrement envie tout de suite. Je sens que j'ai besoin de le découvrir encore plus, d'avoir encore plus confiance en lui. Je sens aussi que lui c'est pareil, il a ce besoin peut-être de plus me découvrir. Mais comment va se finir ce premier rendez-vous ? Et effectivement, il se finit de manière très simple et naturelle. Pas de premier bisou, mais on se fait la bise et puis on se dit au revoir en sachant qu'on est presque sûr de se revoir. Et effectivement, à peine s'être quitté en face de nos trains, eh bien, on s'échange encore des messages et puis les jours passent et on s'appelle tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne se donne pas des nouvelles et puis on se décide rapidement de se revoir. On se revoit un samedi soir du côté de Bercy. Je le vois encore tout timide, tout réservé. Moi, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et on se fait la bise et puis on se décide d'aller au cinéma. Nos premiers cinémas. Ce film, je me rappelle, c'est « Ne le dis à personne ». Et on s'installe et puis rien ne se passe durant le film. Et puis après le film, voilà, encore comme des copains, on mange un bout dans l'un des restaurants près du cinéma. Et on se quitte. Une fois encore, en se faisant la bise. Les semaines passent et on continue à se voir une troisième fois en faisant un ciné, bar, resto. Puis au bout de la quatrième fois, on est en fin novembre 2006. Et là, je me dis, oh, c'est bizarre quand même. Même si je vois que il y a des regards qui ne trompent pas, il y a de l'affection beaucoup qui se voit vraiment beaucoup. Je vois qu'il est très attaché à moi dans sa manière de me parler par message et même de vive voix. Je me dis c'est quand même bizarre. Pourquoi il se passe rien ? J'en parle donc à mes copines. Je leur demande conseil parce que je suis novice dans tout ça. Puis moi mes copines, la plupart elles sont déjà en couple, donc je demande conseil. L'une me dit mais Marlène. Mais vas-y, le prochain rendez-vous, s'il y a, tu l'embrasses. Et puis, si ça fonctionne pas, tant pis, au moins, t'auras essayé. Et donc, on est le 3 décembre 2006. Oh, j'ai une pression folle parce que je sais que j'ai dans le coin de ma tête le conseil de mes amis qui me dit d'embrasser Adrien ce jour-là parce que j'ai presque pas le droit à l'erreur. Donc, le rendez-vous se passe à Saint-Émilion. On se fait un ciné et puis on reprend le métro. On va à Châtelet et puis on va dans un bar qu'on connaît pas tous les deux. On se prend un petit cocktail. Et puis après ce bar, eh bien, devant l'église Saint-Eustache, j'ai cette folle envie de l'embrasser, mais oh, je suis mais apeurée, j'ai une boule au ventre énorme, mais des papillons en même temps, bref, un sentiment que je connais pas, puis là, je l'embrasse, je fais le premier pas. Et je suis fière de moi, au fond de moi, je taquine en disant, bah, heureusement que je suis là, hein, parce que sinon, ça aurait duré longtemps, cette histoire. Et voilà, on se quitte en se disant, bah, à demain. Ou après-demain, mais en tout cas, c'est sûr qu'on se revoit. On commence donc officiellement une nouvelle relation. Et là, je sens qu'il y a quand même une petite pression. Je me dis, bon, j'ai l'impression d'être tombée sur quelqu'un de super. Maintenant, il faut vivre pleinement cette relation. On est en décembre 2006, les jours passent et j'ai toujours cette boule au ventre, mais aussi des papillons. Et je sens qu'il y a cette pression, entre guillemets, même si il me l'a jamais mise, mais je sens que bah, il faut se lancer pour cette première fois, pour ce côté encore plus intime. Et je me sens en confiance avec lui, je sens que ça va être lui. Et je sens qu'il est temps aussi de se lancer et de me dire, Marlène, c'est bon, reprends confiance en toi. Écoute-toi, écoute ton intuition au maximum. Et c'est ce que je fais. On est en janvier 2007. Notre première fois a lieu et j'ai l'impression d'être une nouvelle femme à ses côtés et de vraiment de donner toute ma confiance pour quelqu'un, même si je sens quand même que mes vieux démons sont là parce que j'ai peur de me dire que ça a à peine commencé, que peut-être ça va se terminer, peut-être il va se lasser de moi, il va partir, qu'il va m'abandonner, comme finalement mon père a fait avec ma mère et moi. Et il y a ce côté comparatif que je sens qui peut être très destructeur, mais je me mets quand même en confiance et j'ai quand même cette intuition de me dire ça va aller. Et donc là, on est en 2008, les semaines passent et puis elles sont simples. On se fait quelques escapades en France. On est pleinement heureux. On reprend confiance à la vie tous les deux, vraiment. Mon père revient en France après quelques temps au Maroc. Il reprend contact avec moi. J'accepte de le revoir. J'accepte de lui pardonner, de dire qu'on a tous droit à une seconde chance. Et puis j'ai surtout espoir de comprendre peut-être certaines choses. Donc je le revois. Mais je le revois avec Adrien parce que je sens qu'Adrien va être d'une épaule importante pour moi. Et j'ai peur de ce qui va m'arriver aussi. Est-ce que mon père s'est remis à boire ou pas? Est-ce qu'il va être violent ou pas? Mais Adrien est à mes côtés. On est en septembre 2008 et j'ai rendez-vous avec lui. On est à Saint-Lazare, à Paris. Je l'attends. Les minutes passent, les heures passent et je le vois pas arriver. Je suis dépitée, je me dis qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui m'attend? Je sais qu'il avait un hôtel à Argenteuil. Donc, avec Adrien, on va à Argenteuil. Je vais à la réception de cet hôtel-là et je dis bonjour, je voudrais voir telle personne, donc mon père. Et cette personne me dit ah non, il n'est pas là. Sauf que je sens que c'est pas vrai. Donc, je quitte cet hôtel-là. Et on fait comme une filature, on se cache dans la voiture et on se dit « Ok, on n'a rien à perdre, juste du temps et on va attendre voir si mon père rentre ou sort de l'hôtel. » Et c'est ce qui se passe. Après peut-être une heure, je vois mon père sortir de l'hôtel, complètement ivre, il titube dans la rue. Je sors de la voiture, mais en furie. Et là, je suis prête presque à me battre avec lui. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu me demandes de me voir et puis tu viens pas. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et donc là, il me dit que, en fait, tout ce qu'il m'a dit il y a quelques années, à savoir que, ben, il avait refait sa vie avec telle personne, qu'il avait fait des enfants avec telle personne, ben, c'était tout faux, en fait, que c'est pas vrai, qu'il m'avait menti, et qu'il s'excuse. Sauf qu'en fait, moi, je suis une furie là-dessus. Et je commence à le taper, violemment. Et là, Adrien ressort de la voiture, parce que lui est resté dans la voiture, il sort de la voiture, il court vers nous et il nous sépare. et on quitte Argenteuil. Et moi, je suis en pleurs, dans un état de choc, prête du coup à recouper une énième fois les ponts avec mon père. Je suis complètement anéantie, mais Adrien est là. Adrien est là pour me soutenir. Je sens qu'il est d'un énorme soutien, vraiment d'une écoute attentive, et je sens que je peux lui faire confiance. Mais je sens qu'au fond de moi, il y a un truc qui se passe. Il y a cette envie de me protéger et peut-être de prendre du recul pour digérer tout ça et de penser à moi. Parce qu'en fait, cette réapparition de mon père, de le revoir, m'a fait dire que il faut que je fuis tout ça, j'ai envie de partir. Parce que le passé a refait surface en l'espace de quelques minutes d'altercation avec mon père, mais c'est fort et je sens que j'ai besoin de me protéger. On est début 2009 et je réponds à une offre d'emploi un peu insolite pour un poste d'agent de voyage dans une agence de voyage en Namibie, qui est un pays d'Afrique australe. Je sais même pas où c'est, la Namibie, mais je vois l'annonce et je me dis waouh, ok, je vais répondre, ça a l'air top. J'ai toujours rêvé de partir encore à l'étranger, de vivre un petit peu cette liberté et surtout de partir en Afrique. Donc j'y réponds. J'en parle bien sûr à Adrien qui me dit « bah c'est loin quand même, où tu mets notre relation dans tout ça ?» Mais je sens que j'ai besoin de prendre du recul. J'ai vraiment besoin aussi de penser à ma vie professionnelle. On est le 23 décembre 2009 et j'apprends que je suis prise pour partir en Namibie. Et j'annonce à Adrien qui, lui, avait pensé que j'allais pas être prise parce que on n'avait pas de nouvelles. Et il me dit, mais j'ai vraiment pas envie que tu partes. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si je te laisse pas partir, tu risques de m'en vouloir dans quelques mois, voire dans quelques années. Mais par contre, si je te laisse partir, tu vas vivre une expérience super. Mais vraiment, je prends ce risque de te perdre. Donc, je sais pas quoi faire. Donc, il me laisse partir. J'ai l'impression que j'ai son feu vert. Et puis, de toute façon, au fond de moi, je sens que c'est une expérience de fou. Il faut que j'y aille, quoi, tout simplement. Donc, j'y vais. Et puis, les séparations à l'aéroport se passent vraiment difficilement. On est à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et on n'arrive pas à se quitter. Je pleure énormément. Je suis mal. On se quitte une première fois. On s'embrasse. Et comme dans un film, je pars. Et puis, j'ai cette envie de faire demi-tour. Je cours vers lui et je dis que non, je veux pas partir. Et je le vois pleurer. Et il me dit « si, vas-y, pars, ne t'inquiète pas ». Mais on est en mars 2010, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, il n'y a même pas WhatsApp, on est vraiment juste en mode Skype. Donc on sait que notre relation va être en longue distance et surtout qu'elle va être que sur Skype et par mail et peut-être par texto. J'arrive donc en Namibie, je me rends compte que c'est un pays extraordinaire au fil du temps. Je suis en colocation, j'ai une connexion internet pas top, mais ça me permet moi d'avoir du contact avec Adrien et de garder le lien avec lui qui est pour moi très important. On s'écrit au quotidien, surtout la journée finalement. La journée, j'ai toujours ma petite fenêtre sur Skype au bureau pour pouvoir échanger un peu avec lui. Et puis le soir, j'ai toujours un espoir de garder contact avec lui, même si la connexion est quand même assez catastrophique. Voilà, les mois passent et puis je vois quand même qu'on vit chacun notre vie. Lui est dans son appart, il a toujours ce même travail. Et puis moi, j'y vis des choses extraordinaires. Je rencontre des gens super, je vis dans un pays qui est juste incroyable. Et donc, on s'appelle un peu moins. Je rencontre tellement de gens que je me remets aussi un petit peu en question. Est-ce que je vais rester ici longtemps, en Namibie? Et je sens quand même que malgré tout, on s'éloigne un petit peu. Et puis, on est en février 2011 et on se dispute par Skype. Et on se raccroche au nez. Et à partir de là, pendant une semaine, on ne se parle pas. Pour moi, une semaine, c'est interminable. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des nouvelles d'Adrien presque tous les jours depuis qu'on s'est rencontrés. Et là, je sens qu'il y a un manque énorme. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, il ne répond plus à mes appels, il ne répond plus à mes emails. Et au bout d'une semaine, en Namibie, il pleut énormément et les routes s'effondrent dans certains endroits dans la capitale. Et moi, je me déplace toujours en scooter là-bas. Et un jour, un matin, en allant au travail, je pense que la route est assez bonne pour y aller. Et en fait, je tombe dans un trou. mais dans un trou de 2 mètres de profondeur, parce que mon scooter, il tombe dans le trou. Et moi, je tombe également dans le trou. Mes jambes sont complètement effleurées. Il m'arrive rien d'autre que vraiment des gros hématomes partout, sur les bras et sur les jambes. Mais je suis psychologiquement aussi choquée, parce que je me dis, mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cet accident-là, je me dis, waouh, ok, je rentre à mon bureau qui était à quelques centaines de mètres de mon accident. Et je raconte à mes collègues ce qui se passe, je m'effondre et surtout j'essaie de rentrer en contact avec Adrien en disant que j'ai eu un accident. Et là, lui aussi me répond enfin après une semaine en me disant « moi aussi, je suis à l'hôpital actuellement, je viens d'avoir un accident, je me suis fait mal au genou, les ligaments croisés ». Quand je vois qu'il me répond, je me dis « waouh, ok, il est là, il m'a tellement manqué, ça fait pourtant qu'une semaine qu'on ne s'est pas parlé ». Qu'il a refusé mes appels suite à cette dispute, mais oh, j'ai l'impression de revivre et surtout de me sentir beaucoup moins seule. Et pour moi, je le vis comme un déclic, cet accident. Je me dis, ok, c'est passé quelque chose qui aurait pu être bien plus grave, certes, mais je le vis comme un déclic de rentrer. Donc, je prends cette décision de rentrer en France. On est en été 2011. Je rentre en France, je retrouve mon Nini, je retrouve mon Adrien. On recommence une nouvelle dynamique, une nouvelle routine en tant que couple. Je reprends mes marques à ses côtés, je sens qu'il est d'une super écoute, qu'il a confiance en moi à l'avenir, même si je ne sais pas encore ce que je vais faire dans ma vie professionnelle. Et la routine s'est bien installée, moi je trouve un nouveau travail. Depuis mon retour de Namibie, j'ai des nouvelles de mon père, par le biais de ma famille du côté de mon père, mais je le revois pas. Je reçois des lettres, mais rien de bien plus. Je sens que j'ai encore besoin de prendre mes distances, j'ai encore besoin de me protéger. Et j'ai aussi besoin tout simplement de continuer à me construire en tant que femme et en tant qu'adulte. Et on est en mai 2012, on décide de se faire une petite escapade avec Adrien, on décide d'aller voir le Mont-Saint-Michel, qu'on connaît pas tous les deux. On part en voiture depuis Paris. Adrien me dit, voilà, ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Mais par contre, la seule chose que je te demande, c'est pas regarder le coffre de la voiture, s'il te plaît. On arrive au Mont-Saint-Michel, on se gare sur le parking. Et puis tout naturellement, je dis, oh là là, mais il fait chaud, je vais mettre ma veste dans le coffre. Mais vraiment, sans faire exprès. Là, je l'ouvre le coffre et là, je vois plein de roses. Oh, je dis, oh mince. Et là, je me fais un peu gronder. Adrien me dit, attends, tu déconnes là, pourquoi t'as ouvert le coffre? Je te jure, j'ai pas fait exprès, je t'assure, j'ai pas fait exprès. Mais j'ai rien vu. Bien sûr que j'avais vu, mais j'ai rien dit. Et on découvre le Mont-Saint-Michel et on retourne vers Deauville le soir même. C'est là où il avait réservé notre nuit. Et il me dit, voilà, on est à Deauville, on va passer la nuit là. Moi, je vais te demander de passer une demi-heure dans la ville. Balade-toi toute seule et puis tu me retrouves à cet endroit. Donc, il me donne l'adresse, un hôtel. Donc, je respecte les instructions. Donc, je suis allée à cet endroit. J'ai toqué donc à cette fameuse porte 202 de cet hôtel. Et là, je rentre, il me bande les yeux et j'arrive dans cette chambre d'hôtel où il y a un énorme lit et sur le lit, il y a marqué avec ses pétales de rose « Veux-tu m'épouser ?» Et donc là, j'ai le sourire incroyable. Je me dis « Waouh, quoi ? Mais attends, mais oh, je savais que t'étais romantique, mais là, à ce point-là, c'est juste top, quoi. » Et là, il met les genoux à terre et puis il me demande sa main. Je suis très touchée. Vraiment, à ce moment-là, je pense pas à mon père, je pense pas à mes parents, mais je vis le moment présent, je me dis, mais bien sûr, oui, oui, bien sûr, je le veux. S'ensuit une discussion le soir, assez importante sur ce qu'on veut en mariage, etc. Et puis je lui dis quand même tout naturellement, par contre, si je me marie avec toi, moi je veux un contrat de mariage, je veux qu'on soit protégés tous les deux, pas comme mes parents. Et je veux aussi que tu saches que si je me marie avec toi, c'est que tu acceptes qu'un jour on part tous les deux à l'étranger. Parce que pour moi, ma vie, elle est ailleurs qu'en France. Et c'était un autre oui de sa part. Et s'ensuit ensuite la recherche d'un lieu pour notre mariage. Je me demande quand même, oh là, je me dis le mariage quand même, attends, mais quelle idée, est-ce que je fais le bon choix? J'ai peur, mais je sens qu'il me soutient, je sens que j'ai aussi envie de cette folie de me marier. Et surtout que à peine on a trouvé le lieu de notre mariage, que je réalise une chose, c'est que je suis enceinte. Donc j'apprends que je suis enceinte en décembre 2012 et c'était pas du tout prévu. Et surtout, j'ai aussi envie de me marier avant que mon bébé arrive, histoire de me protéger moi en tant qu'épouse, mais aussi protéger mon enfant. Et les mois passent, les mois de la grossesse se passent très bien. Je vois ma mère aussi quand même qui a une certaine appréhension de me marier. Je pense que c'est pas anodin, notre histoire à toutes les deux. Donc, elle me met en garde. Je sens qu'elle me protège d'une certaine manière. Mais encore une fois, je mène ma vie et je m'écoute et je vis à fond la chose. On est le 8 juin 2013. Je suis à plus de 6 mois de grossesse. J'ai un gros bidon. On est au cœur de Paris. On se marie dans le 18e. On est avec nos amis, on est près de 45 personnes, un petit mariage, on se marie dans le quartier des Abbesses. On est heureux, il fait beau, il fait très chaud. Je trouve Adrien très beau. On est heureux tout simplement ce jour-là et on profite à fond de nos familles. J'ai quand même un sentiment de culpabilité, de tristesse au fond de moi parce que mon père n'est pas là et ma famille du côté de mon père n'est pas là non plus. Et je suis triste au fond de moi parce que je crois que j'aurais adoré que mon père m'accompagne peut-être à la salle de mariage. Mais c'est pas le cas et c'est pas grave parce que je sens que je suis bien entourée quand même ce jour-là. Mais je suis quand même un petit peu triste et cette part de culpabilité va me suivre un peu plus encore au fil des années. Mais je m'en rends pas compte à ce moment-là parce que voilà, on vit le moment présent et il y a plein d'amour et je porte mon bébé et la vie est belle. Après le mariage, arrive notre petite Louise. Tout se passe bien, Adrien sait vraiment me soutenir en tant que jeune maman. J'ai pas de repère, donc lui vient d'une famille avec une sœur, avec des cousins, etc. Donc il sait comment s'occuper de bébé et moi je ne sais pas. Donc je sens qu'il est d'un énorme soutien. Il me rassure beaucoup parce que j'ai besoin de savoir qu'il est toujours là malgré l'arrivée d'un nouveau petit être dans notre famille. Mais il me rassure. Les mois passent, les années passent et cette envie de repartir à l'étranger est toujours est belle et bien là. Et on décide de repartir, mais cette fois en famille, à Troyes, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et les choses se passent bien, même si finalement on rentre rapidement en France. Et voilà, on continue notre bout de chemin entre la région parisienne et la ville de Nantes. En 2020, le confinement arrive. Je viens d'apprendre, en plus, il y a quelques mois à peine, que je suis enceinte. Après 7 ans, je retombe enceinte. Et le confinement est là. J'ai une perte d'activité professionnelle énorme. Travaillant dans le tourisme, il y a tout simplement plus de tourisme. Et je me sens isolée, je me sens seule. Et en même temps, je vis une incroyable grossesse confinée. Ça se passe bien, mais voilà, on est à 3,5. Et je sens qu'il y a des petits démons qui reviennent, tout simplement. Le 7 août, j'accouche d'une petite Léa. Ça se passe super bien l'accouchement, même s'il a été très intense. Mais j'ai l'impression que c'est une renaissance pour moi, que je redeviens à nouvelle fois maman. Et on reprend une vie à 4, on apprend à vivre à 4. Et pour moi, ça n'a pas été facile parce que je me rends compte que je vis dans la nostalgie. Je n'accepte pas que mon bébé grandisse, je n'accepte pas des premières fois et je me rends compte aussi que finalement je ne tomberai pas à nouveau une nouvelle fois enceinte parce qu'on ne veut que 2 enfants et c'est notre choix. Et donc tout ça fait que je suis nostalgique et très mélancolique de la vie et je m'en rends compte quand un jour j'emmène mon bébé à la crèche, qu'elle me dit au revoir avec sa main et que je me mets à pleurer et que le personnel de la crèche, dont une psychologue qui était là ce matin-là, me dit « Vous allez bien, madame ?» Et je dis « Oui, oui, tout à fait. » Et que là, je me remets à pleurer. Et à partir de là, la psychologue de la crèche m'a accompagnée au fil des mois pour aller mieux. Car tout simplement, en fait, mes vieux démons sont revenus. Vraiment, cette position que j'ai aujourd'hui en tant que maman avec 2 enfants me fait peur. Et j'ai besoin qu'on me rassure, j'ai besoin qu'on m'accompagne et j'ai besoin de me dire aussi que la vie que je suis en train de mener, elle est différente de celle de mes parents, tout simplement que chaque histoire est différente et que la mienne aussi est différente. Et au fil de ces mois, je suis accompagnée d'une psychologue incroyable, très à l'écoute, même si aussi Adrien est aussi là, il comprend pas ce qui se passe parce que je suis une personne qui est très souriante, très dynamique. Et là, il voit qu'il me perd, qu'il me voit moins souriante, qu'il me voit très à fleur de peau. Donc, il sait pas trop quoi faire, mais il ne m'abandonne pas dans ces moments durs. Et il y a tout un travail avec cette psychologue sur ma place en tant que femme, ma place en tant qu'épouse, en tant que maman. Et ça se fait en plusieurs années parce que ça s'est fait en plus d'un an et demi, voire presque 2 ans de thérapie avec ma psychologue. Adrien, à ce moment-là, il est encore là, mais je le sens un peu démuni, mais je le vois qu'il est encore bien présent. Moi, je suis toujours, d'une certaine manière, encore un peu un clown, mais un clown un peu tristoun, mais un clown qui dit « Oh, de toute façon, un jour, tu iras voir ailleurs » ou « Regarde, cette fille là-bas, elle est plutôt pas mal, elle te plairait pas ?» J'essaye en fait un peu de le titiller, mais en fait, non, je vois qu'il est toujours là, qu'il est amoureux de moi et que... On est une belle famille et ça, je le comprends grâce à ma psychologue qui me fait énormément relativiser de la chance que j'ai d'avoir quelqu'un de bien à mes côtés, de confiance. Et je crois que c'est aussi grâce à elle que je l'ai compris. Et c'est elle qui me l'a dit et c'est elle qui m'a rassurée. Et Adrien m'a pas abandonnée. Comme si, voilà, je m'étais fait à l'idée qu'il allait m'abandonner un jour ou l'autre. Mais non, en fait, non, c'est pas le cas. Il est toujours bel et bien là. Et grâce à ma psy, j'ai appris à me dire que oui, c'était la bonne personne. Et aussi apprendre que chaque histoire est différente. L'histoire de mes parents, c'est leur histoire, c'est leur vécu. Et ça veut pas dire que je vais vivre aussi la même histoire. Ça non, je l'ai compris. Aujourd'hui, avec Adrien, tout va bien. Comme tout couple, il y a des hauts et des bas. On traverse parfois des questionnements, mais on sent qu'on est là mutuellement et qu'on avance ensemble. Et les années ont passé avec mon père. Et grâce à l'arrivée de Léa, ma deuxième fille, j'ai repris contact avec lui. Et aujourd'hui, on a repris contact ensemble en vrai. On s'est revus il y a un an, en mai 2022. Et il va bien, il va mieux. Moi aussi, je me sens plus sereine en le voyant comme ça. Mais voilà, on est là et je suis heureuse. J'ai eu des envies d'abandonner, mais en fait, Adrien, il n'est jamais parti. Il a toujours été là. Et aujourd'hui, je le remercie. On fête nos 10 ans de mariage cette année et je me dis qu'on a vécu des sacrées choses entre la France, la Namibie, l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, là où on est avec nos deux filles, et j'ai l'impression que même si ça se complique parfois dans nos quotidiens, etc., qu'on arrive à se soutenir. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un vraiment de confiance et de respectueux et de bien. Adrien, ce podcast, il est pour toi. Je tiens à te remercier d'être là, de m'avoir redonné confiance à la vie et surtout à l'amour. Toi, mon premier amour, vraiment, merci. Merci de ton soutien, merci de me supporter aussi. Je nous souhaite vraiment encore plein d'années de bonheur et je t'aime, tout simplement. Je t'embrasse.
Merci à Alexandre Deguet qui a réalisé cet épisode et à Agathe Soro qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, mettez-nous des étoiles et des commentaires, ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Et puis découvrez notre nouveau podcast, il s'appelle Les Rescapés. Si vous aimez les histoires intenses, les tranches de vie, les vrais récits, vous allez adorer. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.